des vies et des hommes.
Isabelle Rupin.
Nous partons aujourd'hui sur la route des Amériques. Quand on dit des Amériques, c'est parce qu'on va partir du point le plus au sud, Ushuaia, en Argentine, pour remonter tranquillement à travers la cordillère des Andes, l'Amérique centrale, et puis un petit peu loin quand même vers l'Amérique du Nord. Ce voyage, c'est Julien Defourny qui nous le propose grâce aux conférences Altaïr. Julien Defourny, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs déjà, dire qui vous êtes ?
Donc je m'appelle Julien Defourny, je suis plutôt un gars qui touche à tout. Dans les étiquettes qu'on me colle, je suis photographe, réalisateur, etc., etc. Mais je suis avant tout une personne, je pense, qui suit beaucoup son cœur, qui a toujours écouté et qui a su suivre en fait l'enfant intérieur. Et ce voyage est né de cet enfant intérieur parce que déjà plus jeune, j'étais très connecté à la nature, je chassais les insectes, les papillons, j'avais des collections. Et puis à l'adolescence, ça s'est un peu perdu avec tous les cadres sociétaux qu'on rencontre à l'école, etc. Et puis j'ai su vraiment me reconnecter à moi avec un premier voyage en Bolivie où j'ai été faire une thèse sur l'apiculture et où j'ai passé énormément de temps avec les paysans boliviens. Ce qui m'a beaucoup inspiré chez eux, c'est la sobriété qu'ils dégageaient à travers leur passion qui était de faire du miel. Et l'Amérique latine m'a directement appelé. Notamment aussi parce que je regardais énormément de documentaires très jeunes sur cette grande forêt amazonienne et elle se situe en Amérique du Sud. Donc voilà, pour moi, le choix de l'Amérique était évident et j'avais aussi l'envie d'apporter quelque chose durant ce voyage et c'était mon inquiétude par rapport au changement climatique qui m'a poussé à vouloir construire un film. Alors ce film, finalement, il témoigne pas trop des problèmes liés au changement climatique, mais il témoigne en fait de toutes ces rencontres que j'ai faites sur la route. Et je suis parti alors sur cette grande aventure. À la base, j'étais parti pour 2 années. Et au final, ce sont 4 années, 50 000 kilomètres sans moteur, à la rencontre du monde et du vivant.
C'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Pourquoi sans moteur ?
Parce que déjà j'avais ce goût de l'effort et puis parce que je pense que le sans moteur permet de se réapproprier le temps. On est dans une société aujourd'hui qui court beaucoup trop vite et pour moi cette course n'a pas vraiment un sens profond à notre existence ni à notre essence d'être humain. Et donc le sans moteur pour moi c'est déjà se réapproprier le temps. Et puis il y a aussi quelque chose de vulnérable, le fait d'être à pied, à vélo, en kayak, je veux dire qu'on n'a pas une... On n'a pas quelque chose de métallique comme une voiture qui nous protège de l'extérieur. Et donc, ce qui fait que ça devient un objet social, le vélo, et ça crée des liens, ça tisse des liens. Les gens qu'on va rencontrer sur la route vont s'intéresser, tiens, d'où vient-il, où va-t-il ? Et ça peut se terminer, on passe une soirée chez cette famille ou plus. Et voilà, pour moi, le sans moteur, ça permet aussi d'être un géographe. Ça permet de s'imprégner vraiment de chaque mètre qu'on parcourt et de se dire « Ah oui, ça a été conçu comme ça ». Et on devient un peu un expert naturaliste en fait. On observe vraiment avec détail tout ce qu'on voit et on a le temps de s'arrêter et de voir plus dans le détail.
C'est bien pour ça que ça vous a pris 4 ans au lieu de 2 d'ailleurs, ce voyage. Donc alors, vous commencez par Ushuaia. Donc là, on imagine effectivement des paysages fabuleux.
Oui, la Patagonie, c'est une terre qui est désolée, donc c'est très inhabité. Il y a beaucoup de montagnes, de glaciers. On a fait une expédition en kayak packraft avec mon ami là-bas. Et on était aussi dans des contrées très isolées. C'était très, très sauvage et intéressant. Et le défi en Patagonie, c'était le vent parce que nous, on démarrait du sud. Donc je suis parti avec un ami pendant 1 an et demi, on a un voyage ensemble, puis 2 ans et demi seul pour que les auditeurs situent un peu la chose. Et donc on était parti ensemble et le défi de la Patagonie c'était vraiment le vent qui venait toujours du nord vers le sud. Et donc on avait des vents à plus de 100 km/h, donc c'était un sacré défi dès le début. Et ça nous a appris une chose, c'est ralentissez et réfléchissez au lieu d'être à fond comme vous avez l'habitude d'être. Et donc, on a réfléchi et on a commencé à faire des étapes de nuit. Donc, on dormait la journée parce que la nuit, le vent s'arrêtait. et on pouvait pédaler. Alors c'était absolument magnifique parce que la nuit, on avait droit à des ciels étoilés, plus de trafic sur les routes et de voir des coyotes et plein d'animaux qui ne vivent que la nuit. Donc c'était des moments fabuleux et sans vent.
Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est inhabituel. Et c'est un petit peu la leçon aussi, c'est peut-être aussi s'adapter finalement au terrain.
Oui, c'est ça.
Au terrain, au sens large.
Je me rappelle à ce moment-là, moi j'étais quelqu'un de très agité mentalement et j'avais besoin de beaucoup plus contrôler qu'aujourd'hui. Et donc je voulais absolument avancer, mais la nature me disait non. Et c'est moi qui vais décider à ta place. Donc dès le début, c'était une expérience psychologique très intéressante. Et voilà, oui, ça permet d'écouter, en fait, d'être à l'écoute de ce que nous dit la Terre.
Julien de Fourny, on va remonter un petit peu là le temps. Donc on arrive vers la cordillère des Andes, un terrain un petit peu hostile aussi, entre guillemets, enfin, avec lequel il faut composer, puisque le relief n'est pas simple.
Alors, pour moi, sur la Terre, rien n'est hostile. Ça dépend de la façon de voir les choses.
Alors on va dire plus aride, contraignant ou compliqué.
Même pas. Parce que quand la passion te pousse, en fait, il n'y a rien qui est compliqué dans la vie. Je pense que la vie, elle est compliquée justement quand tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Donc, les obstacles, c'est normal dans la vie. Et les Andes, d'ailleurs, c'est une belle métaphore à l'aventure et à la vie, je dirais. C'est que quand il y a la montée, c'est le moment difficile. Quand tu arrives au-dessus, c'est le calme. Et quand c'est la descente, c'est l'euphorie. Mais l'aventure et la passion de l'aventure, ça t'apprend une chose, c'est que l'euphorie, elle peut être aussi dans la montée. Et donc, au début, peut-être, c'est dur et tout. Mais à la fin, tu t'habitues à ça et être en méditation avec toi-même parce que des montées de 100 km dans les Andes, voilà, ça devient un mouvement méditatif, en fait, une répétition pour gravir cette montagne jusqu'à 4-5, 6 000 mètres d'altitude. Et voilà, encore une fois, ça permet aussi une introspection sur toi-même, ces moments. Et il y a plein de moments qui ressortent, que ce soit avec ta famille, avec tes amis. Et c'est ça qui est intéressant dans ce voyage, c'est pas que voir des paysages, mais c'est que la lenteur et ce mouvement de répétition t'emmènent à des états d'introspection pour moi. Et donc les Andes, c'était quelque chose de très plaisant, très très plaisant, parce que c'était dur. Et à la fois, quand tu arrives au-dessus de ces pics et que tu commences une descente de 40, 60, voire 100 km, c'était la plus longue. Et ben là, c'est juste magique. Tu te laisses glisser et tu vois les écosystèmes changer à une rapidité parce que l'altitude baisse très rapidement et donc les écosystèmes varient aussi avec cette altitude. Et c'est juste magnifique.
Là, on a beaucoup parlé de paysages, hein, Julien de Fourny, mais donc vous avez rencontré des autochtones aussi, selon le terme que j'aime bien, des habitants du monde.
Oui, ben, c'était l'essence du voyage. Je pense que c'était la rencontre avec l'humain qui a été le moteur complètement de ce voyage. Hein. C'est lui qui permettait, dans les moments difficiles, à continuer, à aller voir ce qu'il y a après la montagne, parce que c'était souvent des moments de joie partagée. D'ailleurs, en 4 années de voyage, j'ai reçu aucune attaque à mon égard. Donc, on a l'impression des fois que le monde, il est négatif parce que les médias veulent nous montrer un monde négatif. Mais la réalité de ce monde, c'est quand tu prends ton vélo, que tu vas voir ce qu'il est. Tu te rends compte que le monde n'est pas du tout hostile ni agressif. Et donc voilà, j'ai eu zéro attaque à mon égard et je me suis même dit, tiens, si c'était arrivé comme à certains voyageurs, ils sont par exemple fait dépouiller une ou deux fois, mais qu'est-ce que ça représente sur le nombre de rencontres positives qu'on a fait? Et c'est là aussi où il faut prendre en compte que parfois l'esprit humain se cible juste sur le négatif. Et on oublie tout le positif à côté de ce négatif, qui est des fois microscopique. Mais ça, c'est une faculté du cerveau à enregistrer juste ce qui est négatif. Et donc non, le monde pour moi est magnifique. Les gens ont tous quelque chose de bon en eux, mais il faut le développer.
Parfois, il faut leur donner la possibilité de le mettre en
Bien
œuvre.
sûr. C'est bien que vous rebondissiez sur ça, parce que ça me rappelle une histoire au Venezuela où j'ai vécu dans des quartiers ultra défavorisés, voire violents, armés. Et j'étais au milieu de ces hommes entourés d'armes constamment. J'étais pas à la recherche de ça. Ça s'est vraiment fait naturellement que j'atterrisse dans ce quartier qu'on appelle une favelas. Et ces hommes, en fait, qui étaient constamment plongés dans la violence depuis leur enfance et qui étaient autour de moi armés, ne m'ont jamais donné une sensation de peur ou à mon égard, en tout cas. Et donc j'étais là pour les écouter, on était comme des frères vraiment. Et ce que j'ai compris de l'humanité aussi, c'est que parfois on juge beaucoup trop vite l'autre sans savoir. On est tous conditionnés aussi. Ces gens qui sont dans des favelas au Venezuela ou au Brésil et qui ont grandi dans la violence par un manque d'amour, tout ce qu'ils recherchent en fait via la violence et les meurtres, c'est d'être reconnus et d'avoir de l'amour. Et je suis sûr que si on plonge ces personnes dans un autre contexte, comme vous venez de le dire, dans un environnement plus sain, où c'est comme une graine, quand on la plante, il faut qu'elle soit dans une bonne terre pour que ça donne une bonne plante. Eh bien, si on le met dans une bonne terre, je suis sûr qu'on peut voir chez eux ce que j'ai vu à ce moment-là en partageant ces jours-là avec eux.
Oui, parce qu'en plus, Julien de Fournier, quand vous êtes allé au Venezuela, c'était en pleine guerre, hein, civile. Hein, donc, effectivement, l'agressivité pouvait être exacerbée.
Les gens avaient faim, donc il y avait beaucoup de braquages de camions, de vivres. C'était vraiment de la survie, en fait. Et puis le peuple était révolté contre le président qui maintenait sa connerie jusqu'au bout, quoi. Et qui la maintient toujours, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils sont passés au dollar, donc ça n'a rien de plus confortable. Mais il faut savoir que chaque famille vénézuélienne a un membre de sa famille qui travaille à l'extérieur pour gagner des dollars, quoi. Donc le pays est quand même dans un chaos profond. Donc oui, voilà, c'était une situation compliquée, mais à la fois dans l'entraide, beaucoup d'entraide au Venezuela, justement par cette situation compliquée.
C'est ça qui est beau, effectivement, de dire que dans l'adversité, on peut faire front ensemble
Oui,
et pas les uns contre les autres.
exactement. Et ça, justement, je pense que c'est l'illusion un peu de notre société actuelle, c'est de penser qu'on est des individus à part entière, alors qu'on est tous unis et liés. Et pour moi, le changement climatique ne pourra jamais être, justement, parce que c'était quand même une idée avec laquelle je suis parti, hein. Donc on parle du changement climatique, de la COP21, mais tant qu'on restera dans un système capitaliste qui extrait de la matière pour produire des richesses, on ne pourra pas renverser le changement climatique. Pour renverser le changement climatique, il va falloir réapprendre déjà le mot collectivité. Et c'est dans la collectivité et comprendre qu'en fait, on est tous une chose, qu'on arrivera à renverser cette situation.
C'est une belle leçon que vous nous donnez, Julien de Fourny. Là, on est passé au Venezuela. Peut-être qu'on va redescendre un petit peu pour suivre votre itinéraire. Donc, on a parlé de la cordillère des Andes. On va assez rapidement sur ces 50 000 kilomètres que vous avez parcourus. On s'arrête un petit peu au Brésil, en Amazonie.
Donc l'Amazonie, ça recouvre plusieurs pays. Alors je crois que c'est 7 ou 9, je ne sais plus. J'ai plus le compte exact, mais bref. Et en Amazonie, je me suis lié d'amitié avec une communauté qui s'appelle les Chouars-Maïkwans, dans laquelle je suis retourné cette année durant 3 mois. Et en fait, ma rencontre avec les Chouars, elle a été aussi, c'est quelque chose qui n'était pas planifié. Donc j'ai rencontré une personne dans un village qui m'a conduit à eux pour réaliser un documentaire sur leur situation, c'est-à-dire l'invasion de la mine dans le territoire du Condor, qui est basé où sont les Chouars, Maïkwans. Et en fait, suite à ce reportage, au début d'ailleurs, la relation n'était pas du tout facile avec eux, eh bien, on est devenus très proches et très amis, comme une famille en fait. Et j'ai décidé de créer une association qui aujourd'hui protège les droits de ce peuple. Et on a divers projets, notamment l'éducation autonome. On a des projets d'immersion interculturelle. Donc j'organise des voyages chaque année maintenant pour que des Occidentaux puissent rencontrer ce peuple et échanger. Et tous ces projets contribuent à la défense du territoire, à payer des professeurs pour qu'ils puissent venir enseigner la culture ancestrale qui était quand même perdue dans le passé, etc. Et donc voilà, l'Amazonie, ça m'a fort lié. Fort touché déjà avec ce peuple. Alors ça commençait très tôt parce que c'était en Équateur. Je n'avais pas encore fait la transamazonienne. Et maintenant, je peux venir à cette transamazonienne. Donc voilà, cette rencontre, elle m'a bouleversé déjà pour commencer. Ensuite, j'étais toujours avec mes amis et on s'est engagé sur le fleuve Napo, qui est un affluent de l'Amazonie. Et là, on a acheté une pirogue et on a descendu environ 600 km sur cette pirogue. On avait mis les vélos dans la pirogue. Et on est parti comme ça, évidemment sans moteur, hein, à la rencontre aussi des peuples. C'est un voyage fantastique, il s'est passé 2000 choses aussi. Et puis je me suis lancé, après ce voyage, seul sur la transamazonienne. Tout le monde, quand je suis arrivé au Brésil, seul à Manaus, qui est la plus grande ville de l'Amazonie, me disait, mais t'es complètement fou de traverser la jungle tout seul, le jaguar.
Ouais, ça paraît un petit peu inconscient.
C'est peut-être inconscient quand on ne connaît pas la nature et quand on laisse parler ses peurs. Mais en soi, le jaguar, pour moi, n'est pas quelque chose d'agressif, d'ailleurs, comme tous les animaux sur cette planète. Et j'en ai eu la preuve de cette conviction, c'est que plusieurs fois, je me suis levé de mon hamac le matin Et non loin de mon hamac, qu'est-ce que je vois? Des traces de jaguars. Au moins 3-4 fois, j'ai vu ça, des traces de jaguars. Donc, il était passé pendant la nuit, parce que c'est un félin qui vit la nuit. Il m'avait vu, moi je dormais, et il m'a foutu la paix. Donc, pour moi, c'est la preuve que le jaguar n'est pas du tout quelque chose d'agressif. Pour moi, il y a des énergies, les animaux sentent les énergies de la personne.
C'est un petit peu comme avec les hommes tout à l'heure. Si on arrive avec une énergie pacifique ou pacificatrice, ça fonctionne. L'autre peut le sentir.
Ah oui, moi je pense vraiment. J'ai eu quelqu'un face à face avec des animaux sauvages qui m'ont aussi prouvé cela. Évidemment, on recense beaucoup d'attaques de jaguars dans les mines d'orpailleurs au Brésil et en Guyane. Mais pourquoi? Parce que le jaguar, il sent qu'on vient détruire son territoire, quoi.
Est-ce que Julien de Fourny, on peut revenir un tout petit peu sur ces peuples, hein, ce peuple, les Chouars, hein. Comment vivent-ils, où sont-ils basés exactement? Parce qu'en fait, vous l'avez dit, mais avec des noms
Oui.
que moi je n'ai pas compris personnellement, que je ne situe pas. Quelles sont leurs coutumes?
Donc les Chouars, ils vivent en Équateur, à la frontière du Pérou, plus précisément dans la cordillère du Condor. Alors il y a 5 ans, quand je les ai rencontrés, il fallait aller en avionnette pour atteindre le village. Aujourd'hui, il y a une route qui a été construite et qui traverse le village. Ceci était l'œuvre de l'industrie minière, évidemment. Donc moi, auparavant, quand je les avais rencontrés, bah, c'était un village qui était encore beaucoup sur ses valeurs ancestrales, qui vivait pleinement de la nature. Aujourd'hui, c'est toujours le cas avec des artifices de la société moderne. Et alors, quand j'ai vu ça pour cette année, j'ai été un peu attristé. Et à la fois, c'était aussi le moment d'être là pour les reconnecter à ce qu'ils étaient vraiment avant la mine. Encore une fois, quand je vous disais que l'homme a tendance à se focaliser sur le négatif et à oublier ce qu'il peut faire à côté, eh bien, ils ont subi le même sort. C'est-à-dire que la mine était tellement envahissante dans leur esprit qu'ils n'ont plus pensé à faire l'école ancestrale et tout ça. Et notre venue a fait qu'ils ont relancé tout ça, quoi. Et c'est juste magique. J'ai des nouvelles parce que maintenant, ils ont le téléphone, donc ils m'envoient des messages et tout se met en place. Et au final, cette année où je suis resté 3 mois, je n'ai jamais vu ce peuple aussi profondément dans leur spiritualité. Et leur spiritualité, c'est quoi? Ben, c'est la nature, en fait. Et ce peuple, depuis toujours, ce que j'ai compris, se connecte via les plantes. Alors, nous, ces plantes, il y a longtemps, on a appelé ça des drogues, parce qu'elles nous amènent dans un état de conscience différent de la conscience normale. Mais il faut savoir que le chamanisme, ça existe depuis des millénaires en Amazonie, que c'est une réelle médecine, que des scientifiques commencent à s'y intéresser. Et je peux en témoigner parce que j'ai suivi la trace de plusieurs chamans, j'ai moi-même vécu ces rites, qui sont des rites pour eux importants pour passer de l'âge jeune à l'âge adulte. Et d'ailleurs, ils ont un chant qu'ils chantent souvent durant les fêtes, et ce chant témoigne de cette connexion aux plantes. Et pour eux, en fait, toute la sagesse et toute la structure de la société chouar a été vue à travers les plantes. Et en fait, en quoi ça consiste? Ben, c'est une introspection sur l'individu, à savoir vraiment qui il est, quelle est sa place dans la communauté et dans ce monde. Et c'est pour ça que je trouve ces peuples relativement sages, d'ailleurs, dans la manière de témoigner et dans plein de choses. C'est grâce à ce pouvoir des plantes, et ils me le disent, qu'ils ont cette sagesse et ce calme, en fait, en eux.
Julien de Fourny, pour poursuivre un petit peu cette voie des Amériques que vous nous présentez, on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur les Mayas.
Oui, donc Maya, déjà, c'est une appellation que les Occidentaux ont donnée au peuple qui vivait entre le Guatemala et le Mexique. Donc Maya, c'est pas vraiment quelque chose de vrai. Je dirais plutôt que c'est, voilà, ceux qui donnent la parole dans mon film, il y a les Tzeltal, les Tzoltil et les Lacandon.
Ouais, bah, avouez que Maya, c'est beaucoup plus facile à dire.
Oui, c'est ça, voilà, pour résumer. Et je sais plus ce que vous vouliez savoir
Oui,
exactement.
pardon, bah c'est cette rencontre avec notamment cette personne, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui parle du lien qu'on a avec les étoiles, par exemple.
Oui, donc c'est Marceau. Marceau, il a été en fait élevé par Lacandon très jeune. Et dans la région où il vit, au Mexique, il a appelé tatarabuelo. Donc tatarabuelo, c'est des gens. Abuelo en espagnol, c'est grand-père, ouais, c'est ça, ancien. Et c'est des gens qui ont une certaine sagesse et qui sont souvent dans des projets pour le peuple. Donc c'est des sages, des chamans, on peut dire. Donc voilà. Et lui, donc, il parle évidemment de la connexion de l'homme aux astres et des astres à la terre. En fait, tout est lié, tout est un. Ben, il dit clairement que le monde court déjà trop, en fait, dans un cercle frénétique, sans savoir vraiment la raison de cette course. Et ça, je suis assez d'accord avec lui. Et que si on continue dans cette destruction de la nature, ça veut dire qu'on n'est pas en amour avec nous-mêmes. Et c'est vrai parce qu'au final, nous sommes nature, nous sommes partie de ça. Et je pense que notre monde s'est tellement coupé de cette nature via l'industrialisation et tout ça, qu'on ne réalise même plus qu'on fait partie de cette nature, et encore moins, par exemple, ce qu'on doit manger sur cette planète. On n'a plus ces notions de savoir ce qui est bon ou pas pour nous, notre physiologie, pourquoi elle est faite en tant qu'être humain sur Terre. On a été coupé de ça, et je pense que notre génération, et donc les parents aussi qui ont mis au monde cette génération, bah, prennent conscience de ces choses petit à petit. Et ce que dit aussi cette personne, c'est qu'une société qui est plongée dans l'ego, c'est-à-dire du moi en tant qu'individu sans prendre au compte les autres, donc ça veut dire un monde égoïste et individuel, bah, ne peut pas aller dans un sens harmonieux parce que la nature, c'est l'harmonie. Si on prend bêtement l'agriculture, c'est la même chose. Si on sème un individu, donc c'est-à-dire du maïs, qu'est-ce qu'il va avoir au fur et à mesure des années, des certifications et tout? La nature, il n'y a rien dans la nature qui est monogame. Pas monogame, c'est uniforme que je voulais dire. Tout est divers, diversifié. Et c'est-à-dire que si on vit comme individu seul, ça ne peut pas marcher. Il nous faut une diversité, il nous faut être connecté aux autres. Il faut une diversité d'aliments pour bien nourrir notre corps. Il faut une diversité dans les forêts pour qu'elles soient en bonne santé et dans nos champs aussi. Donc tout est lié. Et si on voit l'univers, il n'y a rien qui est uniforme.
Ça, pour vous, c'est un vecteur, hein, très important de réconciliation, peut-être, de l'homme avec la terre, et puis à la fin, du rééquilibrage, hein, nécessaire à la terre.
Oui, et pour que la Terre se rééquilibre, bah, il faut passer. Pour moi, c'est des quêtes spirituelles et je ne lis pas ça du tout à l'église ou à quoi que ce soit. C'est une introspection intérieure. Et notre peuple a été coupé de ça. Et pourtant, les Celtes le faisaient il y a 400 ans, on arrivait encore à ça. Tant qu'on n'arrivera pas à ne plus vivre à travers notre ego, il n'y a rien qui va être résolu, quoi, en fait.
C'est vrai que quand on y pense, effectivement, là, en Occident, on meurt de trop manger.
Ouais.
C'est un paradoxe, alors qu'en fait, on sait comment bien manger.
D'ailleurs, dans le monde, je pense qu'on est la société qui a le plus de chances de pouvoir sélectionner ses aliments et bien manger s'il le veut, quoi. Ce qu'il faut retrouver, c'est du bon sens et c'est au niveau de tout. Il y a vraiment de tout. C'est dans chaque milieu, on va à contresens presque. Alors, il y a aussi du positif, hein, mais pour moi aussi, vouloir expliquer tout via la science, ça devient une religion aussi qui est dangereuse parce que la voie de la sagesse, il y a des écrits depuis 5 à 10 000 ans, voire plus. Et on n'écoute plus ces gens, alors que aujourd'hui, je pense qu'on a tout intérêt à écouter les deux mondes. Donc que la science aille voir ces choses. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont une ouverture d'esprit qui, heureusement, ils vont voir ça. Mais il faut qu'on arrête de rester dans le rationnel.
Julien de Fourny, deux choses que je voudrais vous demander encore. Dans votre film, on voit quand vous arrivez au mur, hein, à Tirona, ce mur qui est là pour séparer, pour diviser, et qui pourtant n'est pas que là comme diviseur.
Non, bah, encore une fois, c'est comme au Venezuela, je vais dire que dans les pires difficultés, on voit aussi la plus grande humanité. Et ça, c'est très propre à l'homme. Il y a des gens qui aimeraient passer de l'autre côté pour espérer une meilleure vie, j'en doute. Mais c'est tellement des problématiques, des fois très dures là-bas, que c'est le seul espoir qu'ils ont. Et pourtant, ils galèrent à passer de l'autre côté. Et ce qu'a décidé de faire un peintre local, c'était de peindre avec les migrants des messages positifs sur ce mur. Donc, si on va à Tijuana, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, en effet, le mur est décoré de fresques et tout ça. Et aujourd'hui, mon vélo est sur le mur avec ce texte. Hein, donc, je disais, un mur ne peut pas détenir les rêves. Et à la fois, c'est vrai. Et pour certaines personnes qui veulent être dans la légalité, c'est plus compliqué. Alors moi, ce que j'avais fait au mur, bah, je m'étais beaucoup intéressé aux migrants. Et puis j'ai été allé travailler avec un père qui avait un centre là-bas qui donnait à manger et de quoi dormir à ses migrants. Et j'ai recueilli des histoires comme ça. Mais je pensais écrire dessus. Il y en a qui sont tellement atroces que j'ai décidé de jamais écrire dessus. Tellement c'était dur, quoi. Il y a des vies, on se demande pourquoi elles doivent passer par tout ça. Mais quoi. Et d'un côté, il y a aussi cette union. Je me souviens, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Juan. Et il avait été élevé dans les gangs violents de Los Angeles. Il avait tout fait toute sa vie aux États-Unis. Il avait été en prison et tout ça, parce que tu passes toujours par la case prison quand tu es dans des gangs, ou alors la mort, hein, ça pouvait être aussi. Et puis il était poursuivi avec sa famille, il a dû fuir Los Angeles. Il a reconstruit sa vie et un jour il a eu un accident avec un Américain là-bas en voiture. Rien de grave, il n'était même pas alcoolisé. Et tout simplement par le fait qu'il n'avait pas des papiers légaux aux États-Unis, mais qu'il était né là-bas, et en plus qu'il avait fait l'armée quand même, ils l'ont viré du pays. Donc il s'est retrouvé à la frontière, il n'était pas mexicain, alors ni américain, donc c'est comme s'il était plus rien. Et c'est là où il a réalisé qu'avant il avait une vie égoïste, et là, Juan, c'était un mec dédié aux autres, à tous les migrants, il n'avait pas un rond sur son compte, il n'avait plus d'argent. Et il a dit, je me suis découvert à travers le mur, quoi. Donc il y a aussi, je pense que des fois l'humain doit prendre des bonnes claques pour se réveiller, des fois.
Donc là, ce sera peut-être effectivement la conclusion. Merci beaucoup. Et puis, j'en profite juste pour annoncer la prochaine projection des conférences Altaïr. Ça sera la Bretagne, le mardi 10 janvier. Donc là, on viendra sur des terrains peut-être connus par les Mayennais, mais en même temps avec certainement des petits coins à découvrir. Donc ça sera le mardi 10 janvier, la Bretagne, à 14h30 au Cinéville. Comme toujours, merci beaucoup, Julien Defourny.
Merci à vous.